Prisonnier en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon père est devenu ami avec un homme que j'ai connu quand j'étais enfant, parce qu'avec sa famille, il venait avec nous à la pêche. Je n'ai jamais compris comment mon père pouvait le supporter parce que cet homme râlait ou critiquait sans jamais s'arrêter. Rien ne lui convenait. Il déplorait les appâts, la ligne, les hameçons, les poissons, l'eau, le froid, le soleil, le vent, le bruit, le silence, les cailloux, l'herbe, son travail, son patron, ses voisins, enfin tout et tout le monde. Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait bien dire de nous dans notre dos. Je continue à lire dans le chapitre 5 de l'épître de Jacques. « Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. » Verset 9. Jacques a déjà fait allusion au conflit entre croyants quand il a dit « Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. » Supposons en effet que je sois en train de casser du sucre sur le dos d'un frère quand tout à coup la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentissent. C'est l'enlèvement de l'Église et le Seigneur descend du ciel pour la chercher. Je serai alors rouge de honte. Au vu de la venue imminente du Seigneur, les croyants ne devraient pas laisser des peccadilles les diviser. Et même ceux qui mourront avant son retour devront de toute façon rendre des comptes de leur conduite. Jacques présente le Seigneur comme juge suprême qui s'apprête à siéger à son tribunal. Les apôtres Pierre et Paul déclarent tous deux que Jésus est celui qui jugera les vivants et les morts. C'est un rendez-vous fatidique et solennel que personne ne manquera parce que tout jugement a été remis entre ses mains. C'est le pendant de l'espérance chrétienne quand Jésus descendra du ciel pour chercher ceux qui ont placé leur confiance en lui, pour délivrer et consoler ceux qui souffrent à cause de son nom. « Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, » dit Jacques. Le verbe pour se répandre en plainte veut aussi dire soupirer, gémir et exprime une lassitude mentale. Le croyant qui critique son frère tend la hache au bourreau et met sa tête sur le billot. En effet, dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même » de la manière dont vous aurez condamné et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Et l'apôtre Paul écrit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. » Je continue le texte. Frères, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Verset 10. Pour encourager les croyants à supporter les souffrances injustes des persécutions, Jacques rappelle l'exemple des prophètes de l'Ancien Testament qui ont dû endurer les pires traitements à cause de leur fidélité à l'Éternel. Jésus a vertement condamné les chefs religieux de son époque en les accusant d'être possédés du même esprit que leurs ancêtres qui tuaient les prophètes. Je continue le texte. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Verset 11. Jacques présente maintenant un autre exemple de patience en la personne de Job, un homme très respecté dans le judaïsme et dont l'histoire était bien connue des Juifs. L'Éternel avait plusieurs objectifs quand il a livré Job entre les mains de Satan. Il voulait d'une part prouver que les calomnies du diable envers son serviteur n'étaient pas fondées, et d'autre part tester et affermir la foi de Job, et troisièmement, lui révéler une autre facette de son immensité. Job a supporté des souffrances inimaginables et inexplicables car il était victime des attaques féroces et vicieuses de Satan en personne. Il a perdu ses enfants, toutes ses richesses, la santé, sa réputation et le pire de tout, il s'est cru abandonné de Dieu. Il a contesté avec lui et exprimé sa misère. Mais, dit le texte, au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Tout au long de son calvaire, Job a prononcé des paroles mémorables. Par exemple, il a dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai, et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. » En pleine fournaise, Job a supporté l'épreuve, et il est demeuré fidèle à Dieu. Finalement, et en s'appuyant sur l'exemple de Job, Jacques dit que le Seigneur est plein de bonté et de compassion, parce qu'il récompense la patience de ses fidèles. Le mot pour plein de bonté est un nom composé qui veut littéralement dire beaucoup d'entrailles. Il n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Les Juifs considéraient les entrailles comme le siège des affections. Le mot traduit par compassion vient du verbe avoir pitié. Il n'est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament et chaque fois pour Dieu. Je continue le texte. Avant tout, mes frères, ne faites pas de serment ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un oui authentique et votre non un non authentique, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Verset 12. Tout le monde ment. Ce qui n'est guère surprenant, puisque de nature nous sommes tous les enfants du diable, qui est le père du mensonge. Les politiciens mentent, bien sûr, mais les scientifiques aussi, et les médias, les profs, les patrons, les femmes à leurs maris et les maris à leurs femmes, les parents à leurs enfants et les enfants à leurs parents, les hommes entre eux et les femmes entre elles. Toutes les sociétés humaines reposent sur les mensonges. Que se passerait-il si tout le monde disait la vérité, ne serait-ce qu'un seul jour? Ne faites pas de serment ne veut pas dire ne jurez pas comme un charretier, mais soyez vrai dans vos paroles. La mauvaise foi invétérée des hommes les a conduits à prendre à témoin des objets sacrés ou un dieu et à élaborer des contrats et des traités, essayant ainsi de s'obliger mutuellement à dire la vérité et à tenir leurs engagements. Dans les Écritures, Abraham et le roi Abimélec sont les premiers à s'être prêtés serment l'un à l'autre. L'Éternel aussi jure en son propre nom et fait des serments. Le livre de l'Apocalypse rapporte même le serment d'un ange. Les Juifs juraient au nom de l'Éternel, mais ils avaient également pris l'habitude de jurer sur le temple, l'or du temple, l'autel, le ciel ou Jérusalem, afin de pouvoir rester évasifs et mentir à leur prochain. Jésus a condamné cette pratique parce qu'elle servait à tromper. Il a enseigné, dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Il va sans dire que le croyant devrait être un modèle d'intégrité et de vertu. D'ailleurs, le retour du Seigneur, qui sera mon juge, devrait suffire à m'inciter à marcher droit et à dire la vérité. Ne faites pas de serment est le premier ordre d'une série qui termine l'épître. Comme Jacques le fait précéder de l'expression « avant tout, mes frères », c'est qu'il est de la plus haute importance. Les Juifs devaient arrêter de jurer au nom de n'importe quoi et dire simplement la vérité. Le langage est une grande préoccupation de Jacques parce qu'il dévoile ce qui est dans le cœur et révèle donc l'état spirituel de la personne. Le cœur est comme un entrepôt et les paroles indiquent son contenu. Comme Jacques l'a déjà montré, la langue est un instrument dangereux parce qu'il est tellement facile de dire du mal des autres. Prêter serment à la façon juive du premier siècle était une tromperie, un peu comme ces enfants qui promettent quelque chose mais croisent les doigts derrière leur dos. Celui dont la pratique est de tromper son prochain ou qui utilise le nom de Dieu en vain montre par là qu'il n'est pas un véritable croyant et il tombera sous le coup de la condamnation. Ce mot n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour désigner des non-croyants. Je continue le texte. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Verset 13. Jacques s'adresse ici à des croyants juifs qui souffrent parce qu'ils sont persécutés, exploités et maltraités. La prière est l'antidote aux afflictions parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Qu'il prie pourrait aussi être traduit par qu'il continue à prier. Quand, pour une raison ou pour une autre, mon fardeau devient lourd à supporter, je dois recourir à la prière persistante, à tambouriner sur la porte céleste jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Celui, par contre, qui est dans la joie, doit la manifester en chantant des cantiques de louange, ce qui est également une forme de prière. Le mot pour qu'il chante des cantiques a donné psaume en français. À l'origine, ce mot signifiait jouer d'un instrument à cordes. Je continue. L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Verset 14. Voilà un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. La pratique du sacrement de l'extrême onction dans l'Église catholique qui a commencé au 8e siècle de notre ère s'appuie entre autres sur ce verset. L'un de vous est-il malade? Ce mot a donné asthénie en français et il est utilisé 18 fois dans le Nouveau Testament. Il décrit aussi bien une maladie physique qu'une faiblesse morale ou spirituelle. Ici, il pourrait s'agir de l'un ou de l'autre. En effet, dans le Nouveau Testament, il est utilisé pour des gens très malades, voire même à l'article de la mort. Dans le verset suivant, Jacques dit « La prière faite avec foi sauvera le malade ». Ici, et pour compliquer les choses, le mot « malade » est différent du précédent. Il apparaît aussi dans l'Épître aux Hébreux et signifie « être fatigué, physiquement malade ou même mourant ». Donc, les deux mots que Jacques emploie pour « malade » ne précisent pas vraiment leur état. Précédemment, il a parlé de croyants qui souffraient sous le poids des persécutions et qui n'en pouvaient plus. Ils avaient touché le fond et ne supportaient plus leurs épreuves. Mais on peut être sûr que parmi eux, certains étaient physiquement très mal en point. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin de l'aide des responsables de l'Église. Les brebis blessées ou épuisées doivent aller vers leur berger ou les appeler à leur secours. Les anciens prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Le mot pour « fait une onction d'huile » signifie simplement « frotter avec de l'huile ». Il ne s'agit donc pas d'une onction cérémonielle et sacrée pour laquelle il existe un autre mot qui a donné « Christ » en français. À première vue donc, Jacques ne parle pas d'un rite religieux et sacré en vue d'obtenir une guérison divine. Il recommanderait la pratique habituelle qui consiste à utiliser de l'huile pour panser une plaie ou pour masser des muscles contractés ou endoloris. Dans l'Évangile, il est écrit que Marie a oint, c'est-à-dire enduit avec du parfum, les pieds de Jésus, qu'un hôte devait oindre, c'est-à-dire verser de l'huile sur la tête de ses invités, et aussi que celui qui jeûnait devait oindre ou parfumer ses cheveux. On lit aussi que les femmes avaient acheté des aromates afin d'embaumer Jésus. Chaque fois, c'est le même mot ordinaire, oindre, frotter avec de l'huile qui est employé. Jacques veut donc que les responsables viennent soulager les souffrances des membres affaiblis et découragés en leur prodiguant des soins et en priant pour eux. Cela dit, le mot traduit par « frotter avec de l'huile » est celui qui est utilisé dans le passage où il est dit que les disciples chassaient beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Dans ce cas, au moins, des guérisons miraculeuses ont été faites avec de l'huile d'olive ordinaire. Je continue le texte. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Verset 16. L'action des responsables de l'Église aura un effet bienfaisant sur le malade. Au minimum, il sera encouragé dans sa marche avec le Seigneur et peut-être guéri s'il est sérieusement malade et si telle est la volonté de Dieu. Le verbe pour « relèvera » veut dire « rétablir »,« réveiller »,« lever », mais il est aussi utilisé pour « ressusciter ». La remarque « s'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné » pourrait indiquer que la maladie en question, qu'elle soit physique ou une dépression, provient d'une défaite spirituelle due au péché. Dans ce cas, l'antidote est de le confesser à Dieu et d'obtenir son pardon. En conclusion, on peut dire que dans l'interprétation de ce passage difficile, il ne faut pas enfermer Dieu dans une capsule, c'est-à-dire être trop cartésien. Dieu fait comme il veut avec ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'une huile particulière pour faire un miracle. N'importe quoi ou rien du tout fait très bien l'affaire. Ce passage enseigne que c'est la prière qui est efficace, que l'onction d'huile peut accompagner un acte de foi, mais c'est toujours Dieu qui guérit. Je continue le texte. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Verset 16. Le mot pour guéri peut désigner un rétablissement physique, moral ou spirituel. Il est utilisé plusieurs fois au sens figuré pour une délivrance ou comme synonyme de pardon, ce qui pourrait être le cas ici puisque Jacques parle de péché. Se soucier les uns des autres est la meilleure façon de lutter contre le découragement et les péchés qui sont comme des boulets qu'on traîne, qui nous encombrent et nous freinent dans la marche avec le Seigneur. Le croyant qui est embourbé dans une faute et qui n'arrive pas à s'en sortir devrait reconnaître en toute humilité qu'il a besoin d'aide. En confessant ses péchés à un grand frère qui a davantage de maturité que lui et en acceptant de lui rendre compte de ses progrès, il bénéficiera de son soutien dans la prière et recevra la force spirituelle nécessaire pour surmonter son péché. Je continue le texte. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Versets 16 à 18. Pour encourager les responsables d'Église et les croyants en général à intercéder les uns pour les autres, Jacques leur rappelle que leurs prières sont efficaces. Ce mot a donné « énergie » en français. Pour illustrer ces dires, Jacques utilise l'exemple du prophète Élie dont l'histoire était bien connue des Juifs. Cet homme était effectivement de la même trempe que le commun des mortels puisqu'il a connu la faim, la soif, la peur et le découragement. Mais quand il a prié avec insistance, il s'est produit un miracle. L'image de la pluie qui tombe sur un sol desséché est un bon exemple des bénédictions du ciel descendant sur quelqu'un qui est dans la souffrance et qui appelle Dieu à son aide. Je continue le texte. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Verset 19. Mes frères, annonce un nouveau et le dernier thème de cette lettre. Le mot pour Ségare a donné « planète » en français et désigne un individu qui a fait fausse route et qui est complètement perdu. Il est comme un astre errant. Dans le Nouveau Testament, ce mot est utilisé plusieurs fois pour des non-croyants. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a fait une profession de foi en Jésus-Christ et qui fait même partie de l'Église, mais qui, par ses croyances et son style de vie, est en train de s'éloigner de la vérité, c'est-à-dire du message de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Il montre par son comportement que sa foi n'est pas réelle, ce qui est confirmé par l'utilisation par Jacques de « pécheur », un mot qui dans le Nouveau Testament s'applique toujours à des non-croyants. À moins que de telles personnes se repentent et acceptent Jésus comme leur sauveur, elles mourront dans leur péché. Mais Jacques termine son épître en disant « sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. » Verset 20. Le mot pour « ramène » est souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour traduire et exprimer la conversion du pécheur. En se convertissant à Jésus, cette personne sera sauvée de la mort, c'est-à-dire du jugement éternel, et recevra le pardon de tous ses péchés, aussi nombreux soient-ils, car la miséricorde et la grâce de Dieu sont sans limite.